Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant réalisé en collaboration avec l'Église protestante unie de Nîmes. Le culte qui va être diffusé est préparé et animé par le pasteur Michel Jasse, pasteur de l'Église protestante unie de France. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Il est présent parmi nous. Avec plusieurs témoins de la Bible, nous disons avec Moïse, « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus. » Nous disons avec David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Nous disons avec Ésaïe, le prophète, « Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël. » Sauveur. Écoutons comment Dieu veut être servi. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles. et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne déroberas pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. C'était la lecture des 10 commandements.
Maintenant, avant de continuer nos lectures, nous prions. Ô Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance, que par ton esprit, nous la recevions, cette parole, avec simplicité et avec joie, foi et joie, que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends de nous. Amen.
Ésaïe, chapitre 60, le premier verset. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Ce verset, cette parole est proclamée alors que les ténèbres, dans ce texte d'Ésaïe, les ténèbres couvrent toute la terre et l'obscurité tous les peuples. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Chers amis, nous sommes le dernier dimanche de l'année et il est de bon ton dans le christianisme de choisir des versets positifs, de bénédiction, d'espoir ou d'espérance, comme celui que nous venons de lire en Ésaïe chapitre 60. Et pourtant, la majorité des textes prophétiques dans l'Ancien Testament, c'est ce qui complexifie un peu la lecture, la majorité des textes prophétiques, comme la plupart dans le Nouveau Testament, la plupart des messages de Jésus en parabole ou lors de ses discours, par exemple devant le Temple de Jérusalem, ces discours, la majorité de ces textes sont pessimistes. Comme ce passage, en Luc chapitre 21, à partir du verset 5, les disciples de Jésus parlaient du temple et admiraient la beauté de ses pierres et de sa construction. Et Jésus leur dit « Il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Extrait de l'Évangile de Luc, auquel j'ajoute ces deux phrases, toujours dans l'Évangile de Luc, un peu plus loin, au chapitre 23. Parole de Jésus en croix, au brigand repentant, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis », et à son Père, Dieu, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », au verset 46. Jésus s'est-il distancié du judaïsme de son époque? Quand il disait « Pharisiens, race de vipères !» C'est comme si on disait aujourd'hui « Catholiques, race de vipères !» Ou plutôt « Protestants, race de vipères. Il convient de bien faire attention quand Jésus annonçait la destruction du temple à Jérusalem. Ce n'est pas pour expliquer que le christianisme allait remplacer le judaïsme ou qu'il était favorable aux violences des Romains qui allaient se manifester. Ce n'était pas pour dire « le temple de Jérusalem, c'est nul !» On va le remplacer par le christianisme, qui n'a que des qualités. Surtout dans sa mode protestante, aimerions-nous répéter, préciser. Quand Jésus annonçait la destruction du temple de Jérusalem, c'était pour dire, un, dans un contexte où on aimait le temple, dire que quelque chose de grave pouvait arriver. Et c'était pour dire, deux, que tous les fondements de notre religion, même la meilleure de nos religions ou de notre société, tous ces fondements peuvent être détruits. Le passage de l'Évangile dans les lectionnaires, les textes du jour, avant celui que nous venons de lire en Luc 21, proposait la purification du temple, Jésus chassant les marchands du temple, en Jean chapitre 2. Purification donc, et destruction, Luc 21. Certains exégètes prétendent que le texte présentant la destruction du temple de Jérusalem aurait été écrit après 70, après la guerre juive et la destruction du temple et de la ville de Jérusalem par les Romains. Je ne le pense pas. D'ailleurs, les exégètes à ce sujet n'ont aucun argument sérieux, sinon l'habitude. Bon, les exégètes se citent les uns les autres, cela depuis le 19e siècle. Jésus, comme ses contemporains à l'époque, on le voit très bien dans les manuscrits de la Mer Morte aujourd'hui, donc ils ont été déchiffrés, mais y compris assez récemment, Jésus pensait, comme ses contemporains, que la catastrophe probable était près d'arriver. Même elle est inévitable. Qu'est-ce que cela peut vouloir nous dire quand nous lisons ces passages? Qu'est-ce que cela peut vouloir nous dire? Bof, personne actuellement n'a vu ce temple se détruire, donc malgré nos soucis, cela n'arrivera pas, pouvaient penser les Israélites de l'époque. Et puis la foi, la religion, c'est toujours être optimiste. Donc, restons passivement optimistes et toujours du bon côté. De même, dans le christianisme historique, depuis 2000 ans, on a eu le tort, en fait, d'effacer toutes les menaces prophétiques, ces passages difficiles de la Bible, et les paroles dures de Jésus. Eh bien non, nous devons les reprendre, ces passages difficiles. Nous devons être lucides. Un des signes dans l'Ancien Testament concernant les faux prophètes, c'est qu'ils n'annonçaient que le bonheur, que le tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, que tout marcherait bien, qu'il n'y avait aucun souci à avoir. Non. Jésus, comme vrai prophète, lui, affrontait les situations en étant lucide. À nous aussi, aujourd'hui, de reprendre le flambeau. À l'époque de Jésus, plusieurs demandaient la purification du temple en contestant le laisser-aller, le manque d'attachement et les manques de spiritualité. Jésus est d'accord avec eux, mais il entrevoyait aussi, pire, la destruction de ce temple. Dans l'histoire de l'Église, à certaines dates, certains chrétiens ont quand même été sensibles à ces ruptures, à ces fractures. C'était à l'époque de l'an 1000, puis à l'époque des franciscains, où il y a eu quand même toute une contestation de la chrétienté, et puis au début de la Réforme. Il nous faut aimer le temple qui se lézarde. Les premiers réformateurs aimaient l'Église qu'ils voulaient réformer. Il nous faut aimer le temple qui se lézarde, même s'il se lézarde. Sa destruction n'est pas une victoire, mais en fait, en réalité, une menace, un trouble, une question. Jésus n'a pas annoncé cette menace pour changer de religion, encore une fois. La vieille religion sera détruite, chouette, j'en fonde une plus moderne. Jésus ne demande pas de se réjouir de la destruction du temple comme s'il demandait à un épicier de se réjouir de la destruction de son épicerie, à un musicien de se réjouir de la destruction de son violon ou de son piano, ou à un instituteur de se réjouir de la destruction de son école. La destruction du temple, c'est ce qui fait mal. C'est quand ça fait mal. Il y a quelque temps, nous avons pensé à l'anniversaire des 10 ans des attentats islamistes à Paris, avec cette question : peut-on anticiper les passages à l'acte des terroristes ? Eh bien oui, en ces temps, on parle beaucoup de ces difficultés totales, des guerres, et pas seulement islamistes, mais il y a la guerre universelle, la guerre climatique, nucléaire, mais aussi avec les conflits avec la Russie. Peut-on anticiper la catastrophe, les risques de notre monde actuel ? L'IA, intelligence artificielle, nous apportera peut-être quelques solutions, mais créera d'autres problèmes. La prescience qu'a eue à son époque Jésus des événements futurs fut extraordinaire, très forte. Outre les annonces de sa passion, il a prédit à plusieurs reprises, il a ressenti la possibilité de la destruction radicale du temple et de la ville sainte. Donc, un pessimisme certain, permis par chez lui, en lui, un courage entouré par une paix intérieure, un détachement qui permet ce courage, et le courage de l'analyse sans concession. Le temple, s'il existe un endroit où l'on peut rencontrer Dieu, c'était là, lieu des pèlerinages, lieu des sacrifices, une des merveilles de l'Antiquité. L'épisode dit de la purification du temple ressemble à une attaque frontale contre le culte qui y était célébré. L'épisode dit de la purification du temple qu'elle ressemble à une attaque frontale contre le culte qui y était célébré et les pratiques de l'époque. Ceci va de pair avec l'annonce de sa destruction. Il ne s'agit pas seulement de purifier, mais de bousculer notre passivité tranquille et aller dans le sens de la rupture, la cassure regrettable, mauvaise. Et nous pensons à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un temple aujourd'hui qui se détruit, qui est détruit ou abandonné ? Beaucoup le sont dans les régions isolées de nos campagnes, ici en France, détruits par négligence de ceux qui en ont encore la responsabilité, ou alors un changement de population dans l'arrière-pays de notre région, pays de Luzège, de Gardoninque ou des Cévennes, l'exode rural qui s'est accéléré, ou par décision synodale pour faire des économies, ou pour obéir à tel ou tel conseiller, conseil presbytéral, ou par manque de foi. Mais ce n'est pas grave, on ira dans une salle plus moderne, plus petite. Jésus décrit au contraire quelque chose de grave. Il n'est indifférent à rien. Le temple de Jérusalem était l'unique temple israélite avec l'arche de l'Alliance, l'habitation de Dieu, l'habitation de cette arche qui symbolisait la présence de Dieu. Et puis l'endroit des sacrifices, lieu d'unité pour tout le peuple de Dieu. Jésus aimait le temple de Jérusalem. On le dit trop peu, Jésus aimait le temple de Jérusalem et à sa suite, l'apôtre Paul aussi. Il allait et faisait des sacrifices, on le voit dans le livre des Actes. La destruction du temple, c'est la faillite de la religion, la faillite totale, l'effondrement des idéologies, du politique, du religieux, la perte de la foi. Aujourd'hui, on est sensible à cela. L'effondrement, la perte de la foi. La destruction du temple, pour Jésus, c'est comme la mort de Jean-Baptiste, son devancier, un peu avant, et bientôt sa propre mort. Et Jésus y va, avec sérieux, lucidité, courage, mais aussi confiance, malgré tout, sans regarder à l'histoire et au visible. Et c'est pour cela que je vous propose aussi ces deux phrases, toujours dans l'évangile de Luc, prononcées par Jésus au moment de la croix. 1. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et 2. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ces deux phrases sont sous-entendues pendant tout le ministère de Jésus et lui permettent sa lucidité et sa force. Les légions romaines vont arriver avec des Grecs, des Égyptiens et parmi eux, l'envie de s'enrichir et de prendre des esclaves. En face, plusieurs groupes de résistance se formeront, des Juifs, mais aussi des Samaritains, quelques Perses, des Syriens. Il y aura des signes dans le ciel et des tremblements de terre. On persécutera le peuple des Juifs et les premiers chrétiens. Jésus ressentait tout cela. Il le ressentait. Et à son époque aussi, certains mystiques à Qumran, comme je l'ai déjà dit. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient la réputation d'avoir pu prononcer leurs paroles dures et leurs mises en garde qui n'étaient pas à la mode. Mais il les prononçait, c'était des paroles à contre-courant parce qu'ils étaient remplis de foi. Ils étaient prêts au martyre. Père, je remets mon esprit entre tes mains. L'esprit pour les Hébreux n'était pas une possession, mais un souffle, une fragilité, une inspiration et un exil. C'est mon identité dans ce qui n'est pas une identité, mon identité dans ce qui n'est pas une possession. Dans le livre des psaumes, il est dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Et aussi, il est dit « Remets ton sort au Seigneur et il te soutiendra ». C'est ce que a vécu Jésus. « Père, je remets mon esprit, ma fragilité, entre tes mains. Je le remets, je la remets. » Le mouvement indique comme s'il y avait du poids, mon passé, ce que je vois, ce que je crois. Le temple de Jérusalem, tout cela a du poids. « Je le remets, Père, entre tes mains. » Alors que Dieu n'a pas de main, mais les mains de Dieu nous entourent comme l'esprit au-dessus de la nature. Et puis cette phrase au larron repentant, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Le mot « paradis » ne vient pas de la Torah, mais des Perses. Le jardin, l'au-delà universel, comme un jardin. Jésus récupère cette idée, la fait sienne. « Aujourd'hui, tu seras avec moi ». Avec moi, dans le paradis. Comment cela aujourd'hui, la vie éternelle, les retrouvailles dans le paradis, c'était compris à l'époque comme à la fin des temps, après le jugement? Non, dit Jésus, aujourd'hui, malgré tout, la foi est malgré tout, aujourd'hui. C'est cette assurance, cette paix que l'on trouve dans toutes les religions vécues de l'intérieur qui permettent à Jésus d'avoir été ce qu'il a été, juste, lucide, honnête et percutant, pour lui-même, pour ses disciples, pour les gens de sa famille et pour tous ceux qu'il rencontrait au bord des routes, riches ou pauvres, les prêtres, les religieux à son époque et ceux qui avaient des doutes, à côté de ce bâtiment magnifique, même si bientôt il n'en restera pas, pierre sur pierre. Dommage, on l'aimait bien ce bâtiment. Alors oui, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Le Dieu de la Bible a pour nom un nom imprononçable que nous avons traduit par « éternel » et qui est en réalité le verbe « être » au futur. « je serai ». Donc, malgré les guerres, malgré les épreuves diverses, Dieu sera en 2026. Amen.
Si tu ne meurs
Donne ton pain, Seigneur, à ceux qui ont faim, donne faim de toi à ceux qui ont du pain, car toi seul peux rassasier notre désir. Donne ta force à ceux qui sont faibles, donne l'humilité à ceux qui se croient forts, car toi seul es notre force. Donne la foi à ceux qui doutent et donne le doute à ceux qui croient te posséder, car toi seul es la vérité. Donne confiance à ceux qui ont peur, donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux, car toi seul, Seigneur, soutiens notre espérance. Donne la lumière à ceux qui te cherchent et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé pour qu'ils te cherchent encore, car toi seul peux combler notre amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que la paix de Dieu soit donnée à vous tous, la paix qui surpasse toute intelligence. Amen.
Voici maintenant une annonce. Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir du site internet de cette église, nimes-église-protestante-unie.fr, ou en envoyant un chèque à l'Église protestante unie de Nîmes, à la Maison du protestantisme, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par le pasteur Michel Jasse, pasteur de l'Église protestante unie de France. Restez à notre écoute pour la suite de notre programme.